en vous lisant un passage du De Catholicae Ecclesiae Unitate ou De Unitate Ecclesiae de Saint-Cyprien qu'on a vu la dernière fois. Bon, alors je vous lis pas le numéro 4, le paragraphe 4. Encore que, bon, c'est intéressant. Allez, je le lis. C'est, je pense, à nos auditeurs. Alors, si l'on considère, si l'on approfondit ces principes, point n'est besoin d'un long débat ni de toute une argumentation. Facile est pour la foi la démonstration, car le chemin de la vérité est court. Le Seigneur dit à Pierre, « Je te dis, moi, que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne la vaincront pas. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu auras lié sur la terre sera lié aussi dans le ciel, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié aussi dans le ciel. C'est sur un seul qu'il édifie l'église. Et bien qu'après la résurrection, il dispense à tous les apôtres pouvoir égal et leur dise « De même que mon Père m'a envoyé, moi je vous envoie, recevez l'Esprit Saint. Si vous remettez à quelqu'un ses péchés, lui seront remis. Si vous les lui retenez, lui seront retenus. Cependant, pour manifester l'unité, il a aménagé par l'autorité de sa parole l'origine de cette même unité, de telle façon qu'elle commença par un seul. De toute façon, les autres apôtres étaient aussi ce que fut Pierre. Ils bénéficiaient d'une participation égale à l'honneur et au pouvoir, mais le commencement a son point de départ dans l'unité. Ainsi est soulignée l'unité de l'Église du Christ. Cette unité, cette Église une, Esprit Saint, au nom du Seigneur, la vise encore dans le Cantique des Cantiques quand il dit « Unique est ma colombe, ma perfection. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. » Celui qui ne s'attache pas à cette unité de l'Église, croit-il qu'il reste attaché à la foi ? Celui qui résiste et fait opposition à l'Église, est-il bien sûr d'être dans l'Église ? Le bienheureux apôtre Paul n'enseigne-t-il pas la même chose ? Ne met-il pas en relief le sacrement de l'unité quand il dit « Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, une seule espérance, celle de votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. » Éphésiens. Ensuite, le paragraphe 5. Cette unité, nous devons la retenir, la revendiquer fermement, nous autres surtout les évêques qui présidons dans l'Église, afin de prouver que l'épiscopat est également un et indivisible. Que nul ne trompe par ses mensonges l'ensemble des frères, que nul ne corrompe la vérité de la foi par une prévarication impie. La dignité épiscopale est une, et chaque évêque en possède une parcelle sans division du tout. Il n'y a qu'une seule Église, qui, par sa fécondité toujours croissante, embrasse une multitude toujours plus ample. Le soleil envoie beaucoup de rayons, mais sa source lumineuse est unique. L'arbre se divise en beaucoup de branches, mais il n'a qu'un tronc vigoureux, appuyé sur des racines tenaces. D'une source découlent bien des ruisseaux. Cette multiplicité ne s'épanche, semble-t-il, que grâce à la surabondance de ses eaux, et pourtant tout se ramène à une origine unique. Séparer un rayon solaire de la masse du soleil, l'unité de la lumière ne comporte pas un tel fractionnement. Arracher une branche à un arbre, le rameau brisé ne pourra plus germer. Couper un ruisseau de sa source, l'élément tronqué tarit. Il en va de même de l'Église du Seigneur. Elle diffuse dans l'univers entier les rayons de sa lumière, mais une est la lumière qui se répand ainsi partout. L'unité du corps ne se morcelle pas. Elle étend sur toute la terre ses rameaux d'une puissante vitalité. Elle épanche au loin ses eaux surabondantes. Il n'y a cependant qu'une seule source, qu'une seule origine, qu'une seule mère, riche des réussites successives de sa fécondité. C'est elle qui nous engendre, c'est son lait qui nous nourrit, c'est son esprit qui nous anime. Voilà. Donc, vous voyez comment... Saint Cyprien insiste bien sur l'unité de l'Église, hein, qui n'a pour père Dieu, n'a pour mère l'Église. Hein, enfin, voilà. Donc c'est son idée. Et alors donc il scelle aussi son témoignage par le martyr. Et alors justement, je vais vous lire les actes du martyr, les actes proconsulaires du martyr de Saint-Cyprien. Donc c'est au milieu du 3e siècle. Hein. Et alors, vous voyez, parfois, on a des récits de martyrs qui sont un peu des légendes, un peu des romans un peu refabriqués. Là, on a les actes judiciaires du martyr. Alors, c'est une version qui est un peu abrégée. Hein. Le 14 septembre au matin, une grande foule se rassembla au champ de Sextus sur l'ordre du proconsul Galère Maxime. Ce proconsul ordonna que Cyprien lui soit présenté le jour même quand il siégerait au portique des exécutions. Lorsque l'évêque Cyprien fut amené, le proconsul lui demanda « C'est toi qui es Tassius Cyprianus ?»« C'est moi. » Le proconsul « C'est toi qui prétends être le chef d'homme aux doctrines sacrilèges ?»« C'est moi. » Les très saints empereurs ont ordonné que tu sacrifies aux dieux. Je ne le ferai pas. Galère Maxime lui dit, réfléchis. Cyprien répond, fais ce qu'on t'a commandé. Dans une affaire aussi juste, il n'y a pas à réfléchir. Le proconsul, après avoir délibéré avec son conseil, se décida enfin à prononcer sa sentence. Il parla ainsi. Tu as longtemps vécu dans une doctrine sacrilège et tu as rassemblé beaucoup de gens autour de toi pour un complot criminel. Tu t'es dressé en ennemi des dieux de Rome et de leurs rites sacrés. Nos religieux et saints souverains, Valérien et Galien, nos augustes et Valérien, notre très noble César, n'ont pu te ramener à la pratique de leur culte. Et c'est pourquoi, parce que tu as été convaincu d'être l'auteur et le propagateur de crimes infâmes, tu serviras de leçon à tous ceux que tu as associés à ton forfait. L'ordre public sera consacré par ton sang. Après ce discours, il lut sa décision sur une tablette. Nous ordonnons que Tassius Cyprien soit châtié par le glaive. Cyprien dit, je rends grâce à Dieu. Après cette sentence, la foule des frères disait, nous aussi qu'on nous décapite avec lui. Aussi les frères s'ameutèrent et une grande foule le suivit. C'est ainsi que Cyprien fut amené au champ de Sextus. Il enleva son manteau, s'agenouilla et se prosterna pour prier le Seigneur. Après avoir enlevé sa dalmatique épiscopale qu'il remit à ses diacres, il demeura en tunique de lin et attendit l'exécuteur. Lorsque celui-ci arriva, Cyprien ordonna à ses assistants de lui donner 25 pièces d'or. Les frères étendaient devant lui des linges et des mouchoirs. Puis le bienheureux Cyprien se banda les yeux de sa propre main. Comme il ne pouvait pas s'attacher les mains, Julien le prêtre et Julien le sous-diacre les lui attachèrent. C'est ainsi que le bienheureux Cyprien subit le martyre. Pour éviter la curiosité des païens, on déposa son corps non loin de là. Puis, pendant la nuit, on le transporta avec des cierges et des torches au cimetière du procurateur Macrobe Candidien sur la route de Mapala, près des citernes. Ce transfert se fit dans la joie d'un véritable triomphe. Peu de jours après, le proconsul Galère, Maxime, mourut. Le bienheureux Cyprien souffrit le martyr le 14 septembre sous les empereurs Valérien et Galien, mais sous le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui appartiennent honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc voilà le récit du martyr. Et alors, ce qui ne rajoute pas, mais qui est dans le récit, c'est que les linges et les mouchoirs qui avaient été étendus étaient pour recueillir le sang et pour être des reliquaires. Voyez. Et comme vous voyez, on est encore dans cette persécution de Valérien vise les évêques, et vous voyez que les autres chrétiens ne sont pas inquiétés. Ils assistent le condamné, ils récupèrent le corps, etc. Ils ne sont pas condamnés. C'est une persécution qui visait que les chefs des églises et aussi les livres qui étaient remis. Parce que sans livre, finalement, sans Bible et sans livre de prière, l'Église était réduite au silence, en fait. Et voilà. Et alors, vous voyez aussi la fermeté de Cyprien. Hein. Impressionnant. Bon. Alors, on va passer maintenant à Novatien. Je sais plus, on n'en avait pas parlé. Pas encore. Hein. Alors, Novatien. C'est un prêtre de Rome. Et qui entre dans l'histoire, si on peut dire, au moment de la persécution de Dèce, donc en 250 par là, 249, après la mort du pape Fabien. Il entre en contact avec Saint Cyprien, justement en 251. Et et trois de ces lettres sont conservées dans la correspondance de l'évêque de Carthage, donc de Saint-Cyprien. Alors, il partage la position de Cyprien sur les lapsis, donc sur le fait de les réintégrer. Mais il s'en éloigne lorsqu'on lui préfère Corneille comme pape. Et il va s'opposer à l'élection de Corneille au point de devenir antipape. Et là, il va se faire rigoriste. Au point d'exclure de l'Église quiconque a péché après son baptême. Donc ça en fait pas mal. Hein.
C'est un nettoyage par le vide.
Oui. Alors du coup, c'était à l'époque où les gens, pour pas être exclus de l'Église, n'y entraient qu'à la fin. Beaucoup différaient le baptême. Alors, vous avez l'exemple avec Augustin. Augustin a été inscrit par sa mère dans l'ordre des catéchumènes. Et on a différé le baptême le temps qu'il s'assagisse. Hein, c'était l'idée. Et alors, il serait mort, donc Novatien, dans la même persécution que d'abord que Corneille. Ils se retrouveront finalement tous les deux dans les mines. Et puis en même temps que la persécution qui aura raison de Cyprien. Alors de lui on a un De Trinitate qui date environ de 240. Où il défend l'identité biblique du Dieu Père, créateur du monde, contre les gnostiques. Donc l'unique Dieu est bon et en même temps créateur du monde visible, ce que les gnostiques accusaient. Il voit dans le Christ le fils du Dieu créateur contre les martionnites. Contre les docètes, il confesse son humanité. Hein, il n'est pas simplement une apparence d'homme. Contre les adoptionnistes, il confesse sa divinité. Il n'est pas un homme divinisé.
Contre les
adoptionnistes ou adoptionnistes. Contre les modalistes, il affirme sa différence, sa distinction d'avec le Père. Il n'est pas simplement une modalité de la divinité, un nom du divin. Vous voyez, comme quand on dit le Tout-Puissant, le Créateur, le Miséricordieux, il n'y a pas un Miséricordieux à côté un Tout-Puissant, à côté... Donc ça, par contre, c'est des noms, donc des modalités de l'unique Dieu. Par contre, le Fils, ce n'est pas une modalité, c'est une personne. Alors, il écrit aussi un traité du Saint-Esprit. Il traite du Saint-Esprit dans son De Trinitate, assez brièvement, puis de l'unité de Dieu dans la distinction du Père, du Fils. Alors, il n'utilise pas le terme de Trinitas qui avait été forgé par Tertullien, parce que Trinitas, finalement, c'est un terme, c'est un néologisme, c'est tri et unitas, et c'est Tertullien qui a inventé le mot, en somme. Mais après tout, Novatien était à Rome, Tertullien était à Carthage, donc... Il ne connaissait pas l'expression. Mais il utilise une expression quand même qui est extrêmement, on pourrait dire, très orthodoxe. Il dit « Una substantia, tres personae ex substantia Dei ». Vous voyez, une seule substance et trois personnes qui sont de la substance de Dieu. C'est, on peut dire que c'est orthodoxe comme expression. Hein, donc, vacillant. Et il va forger, en revanche, les mots d'incarnation, incarnatio, et de prédestination, prédestinatio. Bon, comme je vous disais, il reste discret sur le Saint-Esprit, parce qu'en fait, la grande question du Saint-Esprit, elle sera traitée à la fin du IVe siècle, avec le concile de Constantinople, Constantinople I. Le Saint-Esprit n'est pas encore véritablement abordé. Donc voilà pour Novatien. Alors on va passer au paragraphe suivant, qui est le martyr. Le martyr. Alors, justement, dans le martyr, on distingue deux catégories de... Il faut peut-être